Et non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Adichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmand d'As. Le gourmand d'As, pourquoi ? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez as, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Bon, salut à tous, c'est à nouveau le gourmand d'As. Me voilà de retour pour vous raconter une très très belle histoire. Enfin, du moins, je l'espère. Je vais vous entraîner avec moi pour une superbe balade qui me rappelle d'excellents souvenirs sur la route des whiskies de Malte, c'est-à-dire la route des whiskies d'Écosse, bien évidemment, les whiskies royaux. Et donc, en ouverture, je voudrais vous raconter cette belle histoire. C'est un beau voyage que j'ai pu faire à plusieurs reprises dans les contrées les plus reculées et pourtant si proches de nous, hein, ces contrées des Highlands, donc des Highlands du Nord, des Highlands du Centre et des Highlands Sud vers les îles. Et donc côté mer du Nord pour les Highlands du Nord, côté plutôt océan Atlantique pour les Highlands du Sud, des contrées sauvages et pourtant si peu peuplées, peuplées de gens aussi en même temps si chaleureux, si avenants. Enfin, je voudrais vous mettre tout ça dans une conversation et je pense que ça va être très agréable. Alors, chaussez vos charentaises, bien sûr des rondinos si vous le pouvez. Si possible, installez-vous tout près de la cheminée et partons pour l'incroyable balade ou la découverte de la route des whiskies. Bon, bien sûr, vous pardonnerez, s'il vous plaît, mon accent des contrées profondes, non pas des Highlands, mais de la Chalosse. Pour exprimer tous ces anglicismes ou tous ces mots un peu compliqués, je le ferai à la française pour ne pas dire à la chalossaise. Mais nous allons nous y retrouver, il n'y a pas de problème. Bien sûr, nous parlerons de régions, nous parlerons de terroirs, nous parlerons de différentes catégories de whisky qui sont assimilables ici un peu à des appellations. Donc je vais vous présenter un peu les régions, les grandes régions, les différents terroirs, à savoir que on a surtout deux très grandes catégories qui sont liées à leur terroir. Ce sont les Speyside d'un côté, les whisky plutôt de terre vers le nord, et plutôt les Islay, les whisky des îles plutôt vers le sud. Voilà, et donc à travers cette route, nous allons apprendre comment les reconnaître, les différencier. Alors on sait que les Français sont de grands amateurs de whisky pour l'apéritif. C'est la grande singularité de la France par rapport à l'Écosse, bien évidemment, puisque l'Écosse, c'est plutôt les whisky de digestif, sachant que autour de l'apéritif et autour du digestif, les dégustations ne sont pas du tout les mêmes, bien évidemment, et la qualité des whisky non plus. Et ensuite, eh bien, je vous garderai une autre chronique, parce que ça me semble nécessaire, pour pouvoir parler de dégustation, de bonnes adresses, peut-être même d'associations de mets qui pourront éventuellement aller avec. Voilà, donc nous venons pour les reconnaître, de différencier et comment les experts et que sont ces Écossais qui les dégustent nous présentent aussi ce qui parfois est des secrets, parfois même des secrets discutés par d'autres, et des traditions en tout cas très très bien ancrées. Enfin, ce qu'ils appellent toujours les secrets de fabrication, comme nous, selon région et qualité des ingrédients, mais tiennent aussi parfois à la fabrication et surtout au fût dans lesquels ils mettent le whisky. On va partir d'un postulat très simple pour s'y retrouver. Un whisky, c'est d'abord une eau pure, ensuite de l'orge maltée dans le meilleur des cas, dans les meilleures catégories, c'est-à-dire de l'orge bouillie que l'on a fait fermenter en le mettant d'abord dans de l'eau froide et ensuite fermenter avec de la tourbe pour faire brûler le feu et entretenir la fermentation de l'orge. Et ensuite, bien sûr, la partie très très importante, celle du brûlé, celle des fûts de fermentation, dont nous verrons la provenance, comment ils sont traités, comment ils sont utilisés. Et à chaque fois, naturellement, chacun donne quelque chose de différent selon ce qu'il a contenu au préalable. Donc un whisky, on l'a dit, c'est une eau pure, c'est le cas souvent pour les single malt, aussi parfois pour les pure malt. Et ensuite, pour les blends, c'est plutôt une affaire, on va dire, d'assemblage ou d'association. Alors, bien sûr, quand on arrive dans cette belle balade, ce sont tout d'abord des prés bien verts, semés de moutons bien blancs d'ailleurs, des bruyères mauves sous un ciel gris-bleu. Alors ici, les rayons du soleil contraignent de zigzaguer entre les nuages pour illuminer Ici, un champ d'orge tout blond, c'est le cas dans le Speyside surtout. Là, des baies rouges ou des chardons bleus. C'est vraiment toute l'Écosse, l'Écosse des cartes postales. Mais le regard que l'on porte est quand même plus important que ce que l'on regarde. Au-delà des paysages qui ont visiblement dessiné les tartans, ces tissus que nous disons écossais, et dont chaque juxtaposition de couleurs désigne, paraît-il, une famille, bien derrière ces paysages, il y a un climat rude, bien sûr, une dureté ambiante, la pluie quasi omniprésente, le froid, le poids des traditions, bien évidemment. Dans n'importe quel autre pays, les hommes affublés de jupettes pourraient prêter à sourire. Ici, bien sûr, un costaud dont les poils frisotent entre le bas du kilt et le haut des chaussettes, ben, c'est simplement un Écossais et fier de l'être. Alors, pour aimer le whisky de Malte, parce qu'en Écosse, il s'agit de whisky de Malte, il faut aimer l'Écosse, bien sûr, il faut la comprendre, il faut essayer de la sentir. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ces trois balades que j'ai faites sur la route des whiskies. Le liquide jaune d'or, donc qui réchauffe le corps et qui chasse la mélancolie, n'a de sens, en fait, que face aux collines de grande solitude, quand le vent glacé, et ici c'est interminable, semble jouer un air lancinant de cornemuse. Alors le goût, il est dans notre tête, bien sûr, autant que dans notre palais. Le pouvoir d'évocation, son ampleur, sa précision, ce sont les premiers signes de la qualité d'un grand, grand breuvage. Le reste, eh bien, ce sont techniques, traditions et bien sûr, savoir-faire. Je vous disais pur, parce que moi je ne vais pas prononcer en anglais, hein, et single malt, des techniques qu'on dit assez simples, pas forcément, mais c'est un peu simple quand même. Il désigne ici les différentes catégories de whisky que vous pourrez trouver en gros sur les bouteilles que vous achetez. Le whisky pur malt, par exemple, il est issu exclusivement de l'orge germée. Le single malt, lui, provient d'une seule et même distillerie, hein, alors que le pur malt peut venir de plusieurs distilleries, mais ils utilisent un seul et même orge maltée. Et de l'eau pure autant que possible, bien sûr. Alors, les assemblages ensuite de single malt, ça c'est très rare en France, sont les vatted, qui sont un assemblage de single malt assez rare, plutôt dans les très très grandes distilleries et les très grands bars écossais. Les autres whiskies, ce qu'on appelle généralement les blended, que vous verrez marqué sur la bouteille, eh bien, vous y retrouverez, si vous achetez votre whisky à mélanger, quelle que soit sa marque, avec du coca, de l'orange ou tout autre assortiment, bien sûr, sont faits à partir de grains essentiellement plutôt de maïs, voire de seigle, même s'ils contiennent pour certains de l'orge dans des proportions variables, hein, puisque si on prend le Teacher Island Cream, le plus gros des Teachers, qui est une marque commerciale de blend, il contient jusqu'à 60% d'orge. Mais bon, c'est quand même relativement rare. Souvent, 35% de malt, eh bien, on arrive encore à le trouver dans certains blends de qualité. Et je vous parlerai, parce qu'on ne peut pas l'éviter, d'une très grande marque qui ne fait que des blends. Bien sûr, c'est Chivas, qui est une des plus connues, et qui, elle, joue sur le fait des assemblages. Très belle maison, et très vieille maison aussi. La délicate alchimie, en fait, qui intervient à cette étape, elle peut mettre en œuvre 30, 40, voire 50 whisky pour une seule catégorie donc de whisky à l'arrivée, une seule bouteille. Donc c'est quand même incroyable, ça nous rappelle, ça n'est pas sans nous rappeler le champagne de grande maison parfois, qui peut provenir de jusqu'à 100 parcelles différentes à travers des assemblages. Donc ici, les épis d'orge utilisés, on les retrouve facilement. Ils ressemblent souvent à ceux du blé, pour ceux qui connaissent, à ceci près qu'ils sont munis de longues barbes. Ils sont battus pour être séparés de la gangue et de la paille. On appelait ceci dans la chalosse la batère, quand on séparait le grain de la paille que l'on mettait ensuite en gerbe. Les grains d'orge sont trempés ensuite dans l'eau, juste pour qu'ils commencent à germer. C'est dans cette germination, en provoquant cette orge germée, si j'y arrivais, que nous allons avoir ensuite la possibilité de le réchauffer pour pouvoir faire du malt. On appelle ça le séchage dans la malterie. Les malteries, vous verrez, si vous faites cette magnifique tournée de la route des whiskies, on les reconnaît assez facilement, tous leurs toits sont coiffés de pagodes à la chinoise. C'est assez étonnant. Et donc, on laisse sécher ce premier orge, on le retourne souvent dans la malterie, et on interrompt ensuite la germination en la passant dans un four où l'on va brûler de l'anthracite, hein, du charbon locaux, et où surtout la tourbe. La tourbe qui est un ensemble de terre et de racines séchées depuis des dizaines, des centaines, voire peut-être même des millénaires pour certaines. Cette tourbe marque, bien sûr, elle s'est décomposée dans le temps, plus ou moins, même plutôt plus que moins. Ben, l'orge, puisqu'en fumant, elle va fumer, en provoquant la germination, elle va fumer un peu ses maltes, donc cette orge qui devient malte lorsqu'il est germé. Ensuite, tout ce mélange est broyé, puis additionné d'eau chaude, et le malt, lui, va libérer des amidons. Ces amidons se décomposent en sucre, évidemment, et ce sont des sucres fermentescibles. À cette eau tout à fait jaunâtre, assez pas très engageante au départ, quand on la voit la première fois, et très douceâtre d'ailleurs, ça s'appelle le wort, on ajoute ensuite des levures. Et ce mou, eh bien lui, qui est le wort est levuré, il est mis à fermenter dans des très grandes cuves, il fermente 2 à 3 jours, c'est-à-dire en moyenne 50 à 55 heures en moyenne, hein, jusqu'à contenir environ 6% d'alcool dans le début de la distillation. Il reste alors à distiller ce liquide alcoolisé selon un principe bien connu, comme on le connaît partout, avec 2 grandes régions en France où on pourrait le comparer. Comme l'alcool est plus léger que l'eau, on sait qu'un litre d'alcool chimiquement pur, ça pèse 794 grammes précisément, donc un peu moins que de l'eau, il boue à une température plus basse. Quand on chauffe ce liquide dans un alambic, c'est le cas de toutes les distillations, alors les vapeurs d'alcool montent les premières et à ce moment-là, comme on le fait ici, il suffit de les refroidir pour les ramener à l'état liquide. Les whiskies de malt sont distillés 2 fois. La première distillation, elle donne 25% d'alcool. La seconde, 60 à 70%. Comme pour la distillation du cognac, on élimine ce qu'on appelle la tête et la queue, c'est-à-dire ce qui sort de l'alambic au début et à la fin de la distillation, pour ne garder que le cœur. C'est comme l'autre avec la meule. Non, j'exagère. Pour le fromage avec la meule, non, c'est une blague. Donc, têtes et queues sont bien sûr repassées sur la distillation suivante. Et ici, rien ne se perd, rien ne se crée. Comme disait un ami à moi, rien, tout se transforme. Tout simplement parce que le goût de l'alcool est plus délicat au milieu de la distillation qu'au début et à la fin, où il y a beaucoup d'amertume. Alors après, il reste à vieillir ce whisky, et c'est là qu'intervient la mise en fût pour qu'il s'arrondisse et s'oxyde légèrement. Alors ici, se jouent tous les secrets, toutes les traditions. Le principe d'élaboration, il semble ne pas être très compliqué. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est quelque part l'imbrication de centaines de détails personnel qui conditionne la qualité du produit final, comme chaque fois qu'il y a une recette qui est édifiée. Mais méfiez-vous des explications trop évidentes. Par exemple, les Écossais, ils m'ont beaucoup bassiné avec ça. Ils insistent beaucoup, par exemple, sur la pureté de l'eau pour faire le wort. C'est ce qu'ils nous ont expliqué pour les single malt, une seule sorte de montagne, avec de l'eau la plus pure. Et en fait, paraît-il, c'est presque l'inverse qui est vrai, puisque l'eau pure ne donnerait pas tout à fait de très bons whiskies, puisqu'elle doit être au contraire riche en sels minéraux et en oligo-éléments pour retenir les amidons de l'orge et s'y mêler. Vous voyez, comme quoi, il y a des secrets partout. Une autre fausse idée concerne la qualité de l'orge qui serait soigneusement sélectionnée par chaque distillateur. Or, époque oblige, presque tous achètent leur green malt, l'orge germée, déjà germée, dans les mêmes malteries et utilisent donc sensiblement le même orge. D'ailleurs, même les Japonais, aussi actuellement producteurs de whisky comme les Français d'ailleurs, des whisky de Malte, importent de l'orge d'Écosse, de l'eau d'Écosse, des techniques, des fûts, sans, pour dire des Écossais qui en rient quand même un peu jaunes, obtenir la même qualité qu'eux. Mais bien sûr, ça paraît tout à fait logique.
Thank you. William.
Donc, ce que les Écossais nomment volontiers secret, comme nous le faisons tous quand nous fabriquons quelque chose chez nous, ne serait en fait que le résultat de découvertes totalement empiriques, ce qui semble déjà beaucoup. L'utilisation dans le temps et les perfectionnements apportés par celui-ci ont formé ce mystère qui n'est autre que la tradition. Ni plus, ni moins, comme le vin. Mais le whisky, lui aussi, il est soumis à un élevage en fût qui rend possible des assemblages aussi incroyables, aussi déterminants pour la qualité, que l'orge, l'eau ou les techniques employées. C'est surtout grâce à cette pratique de l'utilisation des fûts que le whisky, année par année, conserve le goût maison, comme on peut le faire pour des produits ici comme le champagne. On essaie de garder un peu le même goût maison. En Écosse, la loi impose qu'ils mûrissent ainsi au moins 3 ans. Ça, c'est pour ce que vous achetez pour votre apéritif. Selon la distillerie, bien sûr, la durée varie de 8 à 15 ans. Au-delà, c'est le cas de certains vated, donc des mélanges de single malt, vendus seulement en Écosse. Le whisky peut prendre des goûts désagréables, des notes amères, en tout cas pour nous, qui n'avons pas l'habitude de cette bouche. On utilise en général des fûts ayant déjà servi, achetés soit aux États-Unis, soit en Espagne. Pour quelle raison ? Pas par économie, mais parce que le bois neuf marquerait trop le malt. Alors Neil Bamford, que nous connaissons tous dans les revues spécialisées, qui vient en France pour porter la bonne parole et présenter la gamme de whisky de malt de l'énorme groupe United Distillers, qui connaît des grandes maisons comme Lagavulin pour nous, pour ne parler que de lui, comme Grant, etc., l'explique. Il nous dit, pour nos whiskies, nous ne voulons pas beaucoup de tanins. Nous devons donc éviter les fûts neufs, comme ceux employés aux États-Unis pour les distilleries de Bourbon, très très marquées par le bois. C'est seulement quand le bois a perdu ses tanins que nous leur achetons les fûts à des prix intéressants. Alors chez Glenfiddich, on reparlera des Glens, notamment dans les Speyside, puisque tous les whiskies commençons par Glen. Par exemple, ici c'est un single malt, mais tous les Glens, quelque part, doivent être normalement les whiskies les plus faciles d'accès pour les connaisseurs ou ceux qui sont moins connaisseurs pour commencer à déguster vraiment du whisky. Tous les Glens seraient plutôt ceux qui s'apparentent à ce que l'on voit dans les foires au vin, la médaille d'or, c'est-à-dire non pas le meilleur, mais celui qui peut plaire au plus grand nombre. Le plus connu dans ce monde, c'est le single malt de chez Glenfiddich. On l'utilise 80% ici de fûts américains, ayant contenu du Bourbon et 10% de fûts venus d'Espagne ayant contenu du Jerez. Jusqu'à ces dernières années, ceux-ci étaient faciles à trouver car les Anglais les utilisaient pour importer le Jerez, les fûts. Mais seulement aujourd'hui, le Jerez, il part d'Espagne en bouteille et les Écossais, ils ont recours à des fûts reconditionnés. C'est-à-dire un bois qui a déjà contenu du whisky, mais qui a perdu un peu son caractère à transmettre, ses goûts à transmettre. Il faut à nouveau le re-remplir, on le renvoie pour le remplir de vin de Jerez, ce qu'on appelle la pacherete, qui redonne au bois le goût qu'il pourra à nouveau transmettre au whisky. Voyez un peu le montage. Balvenie, sur lequel j'aurai la chance de revenir quand je ferai pour vous la deuxième chronique concernant la dégustation, cette petite distillerie que j'adore, qui appartient à Glenfiddich, sophistique à l'extrême le processus en différenciant les fûts qui ont contenu 3 variétés de Jerez différentes. Le fino, que nous connaissons bien sûr lorsque nous allons faire les corridas du côté de Séville, l'oloroso, qui est beaucoup plus parfumé, plus boisé déjà, ou le pale cream, le plus tendance anglo-saxonne. Alors les classifications, bien sûr, sont pleines de subtilités. Quand on regarde en France, où le whisky est en général servi en apéritif, on ignore souvent que les grands whisky de Malte se consomment en digestif et qu'ils ont leur fanatique. Alors Bernard Charreton, qui en est un, qui est un Français expatrié, nous dit que le whisky est l'alcool que l'on aime avec l'âge, explique-t-il, surtout celui de dégustation. Il faut apprécier sa sophistication, mais aussi sa simplicité. Une aptitude qui vient avec les cheveux blancs, c'est un peu plus logique. Lui-même, dans sa bibliothèque, bureau refuge, où il ne laisse faire le ménage que le moins souvent possible pour ne pas perturber le savant désordre où il se retrouve, il m'avait invité pour une bonne 15aine de bouteilles qui attendaient son bon vouloir. Après 3, j'ai déjà eu du mal à retrouver mon chemin, mais c'est quand même vraiment quelque chose d'extraordinaire. Choisir ici est déjà un plaisir. Selon l'humeur et le temps qu'il fait, il prend en exemple un Kleinlich. Kleinlich, c'est tout à fait le nord, quasiment le grand nord de l'Écosse, avec sur le bord de la mer du Nord un climat rude, un terrain balayé par les vents et cette tourbe unique, ou alors dans un monde différent, dans les Islay, tout à fait au sud, un Laphroaig, plus iodé lui. j'ai redécouvert donc le Bunabem, on l'écrit Bunahablen. Bon voilà, on prononce Bunabem, approché pour un chalossier. Hein. Typique d'Aïlé, des îles du sud. Un nom évocateur de ce coin d'Écosse, on a la sensation évidemment déjà quand on en est là de voyager dans sa tête et quand elle ne tourne pas trop, parce que moi j'ai eu quand même un peu de mal à retrouver mon chemin. Néanmoins, c'est le whisky qui quand même fut servi à Washington au repas d'intronisation du président Bush, père. En revanche, à l'apéritif, il nous conseille, lui, Charlton, un whisky pale, peu tourbé, peu ou pas iodé, un Highland, mais qui peut se confondre avec une tombée puissante de sirop, d'orange, de coca, enfin, tout ce qui peut vous faire plaisir. Lui, ça n'est pas du tout sa catégorie. Car un amateur éclairé comme lui, ben, il vous dire que le whisky de Malte, ben, c'est aussi simple à dire que le vin de France. Pour lui, c'est ça, la réalité. Voilà le rapprochement. Dans la culture française, la notion de qualité, vous le savez tous, elle est liée pour nous à celle d'indication d'origine géographique. Le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne, le poulet de Bresse, le beurre de Normandie, le foie gras des Landes, etc., etc. En Écosse, ces classifications, elles sont un petit peu plus floues. Compte tenu de quoi ? Ben, surtout que le fait que la mise en fût conditionne complètement les résultats de l'alcool qui a été produit dans une région germée, tourbée et tout ce que vous voulez. Dès lors qu'il passe dans certains fûts et qu'il est très marqué par le fût, ben, c'est beaucoup plus difficile de ne pas tenir compte de son influence pendant l'élevage. Donc, il n'est pas évident de trouver des familles de goûts variant selon la géographie. Alors, la carte que nous publions, bien sûr, tous les ans, qui est publiée par l'Office donc de la route des whiskies, c'est un office spécial. Ben, grosso modo, donc, elle parle de tous les maltes qui sont produits en Écosse. Hein. Alors, on ne peut pas nommer toutes les distilleries, puisqu'il y en aurait, je pense, plus de 120 quand même, ce qui est beaucoup. Grosso modo, s'ils reviennent de Campbelltown, c'est-à-dire dans le nord, ils sont salés et iodés. Ceux des Islay du Sud et de Jura, de l'île de Jura, sont également, mais ils sont surtout, on s'y arrêtera forcément au moment de la dégustation, parce que ce sont quand même mes préférés. Ils sont bien sûr tourbés, évidemment. Ils sont amples, ils sont très complexes, ils sont profonds, je dirais même parfois pour la tête, légèrement envahissants. Mais bon, ça dépend, bien sûr, naturellement, de l'ardeur que vous y mettez à le goûter. Alors, on y trouve de très, très grandes bouteilles, hein, comme Bunabem, comme Beaumort Légende, comme Lagavulin, même si c'est la plus grosse distillerie que j'ai jamais vue de ma vie, et qui, pourtant, s'applique à avoir des produits de très, très grande qualité, une large gamme de qualité. Isle of Jura, dans l'île du Jura, quelque part, l'île le plus au sud, qui produit des choses absolument merveilleuses. Bruich l'a dit, je ne sais pas si c'est exactement la prononciation, mais c'est ça. En tout cas, les Lowlands, c'est-à-dire les îles du bas, hein, dans les Lowlands, les whiskies sont plus ronds, ils sont plus aimables, pas ou peu tourbés, même je dirais pas très tourbés, donc peut-être, on va dire, plus facile. Alors ici, vous trouverez, on reparlera tout ça dans la dégustation, mais Rosebank et Glenkinchie, Glen, je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt facile d'accès, sont parmi les distilleries les plus réputées. Rosebank est difficile à trouver. Fruité, très rond, ils font le bonheur de ceux qui craignent la sécheresse des alcools d'autres régions. Sécheresse étant une expression de technicien, hein, ce n'est pas forcément le mot le plus adapté. Les Highlands, en tout cas, ils peuvent se diviser en trois. Hein. À l'ouest, nous avons les Maltes, qui sont plutôt tourbés comme Oban, ce sont des maisons de légende, bien sûr. Tullibardine, ou le superment rond et aromatique Glengoyne, plus facile d'accès. À la limite des Lowlands, donc du bas. Fournisseur officiel de la reine-mère, tenez-vous bien quand même, à Clarence House, sa résidence d'été. Au nord, on trouve les mâles plus robustes, secs, parfois légèrement iodés, le plus souvent marqués par la bruyère, territoire ici merveilleux, ce climat de lande battu par les vents. Ici se trouvent deux très très grandes distilleries, tout à fait au nord, Kleinlich, si vous en trouvez, c'est assez rare d'en trouver en France, vous pouvez le déguster par sa finesse, mais sa puissance en même temps, plutôt pour commencer la dégustation. Ensuite, Glenmorangie, que nous connaissons tous, encore un Glen, donc déjà plus à l'accès facile. Entre autres, ces deux, bien sûr, sont à goûter impérativement, mais on en reparlera à la dégustation. Sur l'Est, on trouve les maltes qui entrent dans la composition, plutôt des blends. Alors là, vous allez avoir des blends dans les whiskies d'assemblage, donc certains, on peut dire, c'est pas un peu la grande cavalerie, mais c'est un peu ça quand même, ce sont les grandes marques commerciales que vous trouvez tous les jours, que vous pouvez mélanger sans le regretter avec votre orange ou votre coca. Tous ces blends, surtout pour leur rondeur et leurs fruits, sont très bien travaillés. C'est l'Eastern Islands, hein, les whiskies de l'Est, qui fournissent, un peu avec le Sud, mais moins, l'essentiel de l'orge, par contre, distillée en Écosse. L'orge provient bien de cette région des Speyside. Donc, les Speyside, c'est à cause de la rivière, on le verra plus tard. Hein. Alors ici, vous avez tous ces blends, on va en parler, quand même plus de 70 distilleries, c'est-à-dire plus de la moitié des distilleries d'Écosse, se trouvent regroupées dans la région des Eastern Islands, donc plutôt dans le nord de l'Écosse. Et donc, pas forcément les plus grandes, mais certaines très connues de par leur nom commercial. Alors, plus l'orge, évidemment, a reçu de soleil, donc quand il vient du sud de l'Écosse, normalement, il en reçoit quand même un petit peu plus qu'au nord, eh bien, il donne du sucre, évidemment. Hein. Cette variation, on peut dire quand même qu'elle est quantitative, pas trop qualitative, parce qu'elle ne présente pas toutes ces expressions comme des pays chauffés par le soleil ici, quand même. Selon la légende, un Eastern Island, comme Loch Nagar, Loch, vous savez, c'est les lacs, hein, c'est un pays de lacs, était au 19e siècle le favori de la reine Victoria. Et pourtant, il était de l'Est, c'était pas forcément des plus grands, c'était, comme pourrait l'être, on l'imagine aujourd'hui, Chivas, un whisky d'assemblage, c'était le préféré de la reine Victoria. Elle disait même, et ça c'est presque notre malheur, elle en coupait son Bordeaux. Bon, on dira qu'à cette époque-là, peut-être il n'était pas fait comme maintenant. Heureusement pour nous, ça va nous sauver. Last but not least, disait-elle, c'est le Speyside. Le Speyside, c'est naturellement l'ensemble de ces terres au long de la rivière Spey et de ses affluents, avec lesquels, dans cette super belle région, on produit les orges, bien sûr, hein, mais il y a aussi une grosse concentration de plus de 60 distilleries. Donc si vous partez faire la route des whisky, si vous ne voulez pas vous perdre, vous allez directement dans le Speyside. Vous ne risquez pas de passer une heure sans voir une distillerie, ce qui pourrait être le cas dans tout à fait le Grand Nord ou le Sud, bien évidemment. Alors, il n'y avait pas de soleil, bien sûr, là-bas, mais bon, s'il n'y avait plus de soleil dans ce coin-là, il est évident que, voilà, naturellement, ce serait terrible. L'herbe serait moins verte quand même, les moutons seront moins gras, les saumons peut-être moins sauvages, et les distilleries seraient moins nombreuses aussi qu'elles ne le sont, c'est comme ça. Alors, on va vous dire maintenant, quand même, un petit peu, avant de... On sait qu'on ne parlera pas aujourd'hui, on l'a dit, donc de l'Écosse, de la distillation, mais on va parler de l'Écosse plutôt de ses provinces, de ses régions, de ce qui est fait sur ces régions en peu de temps, très rapidement. Hein. Voilà, alors sur les près de 120 distilleries, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre l'Écosse, une soixantaine, c'est dans le Speyside. Hein. C'est la vallée de la Spey, c'est le Livet et le Duland, ses affluents, bien sûr. Donc c'est la région aussi des lacs, c'est la région du nord et du centre de l'Écosse, on va dire. Alors, les whiskies sont plus connus, il y a beaucoup de distilleries, je ne vais pas vous donner leur nom, mais vous en connaissez plusieurs. C'est celle que nous trouvons le plus couramment, naturellement, sur les étals de la grande distribution. Après ça, vous pouvez aussi trouver quelques jolis flacons. Hein. Voilà. Alors, en France, on a la majeure partie qui sont, et d'ailleurs essentiellement, distribuées en France, avec de très très beaux, par contre, au milieu de belles distilleries comme Macallan, par exemple, de la même trempe que Oban, et donc que vous trouvez, pour certains whisky, vous ne les trouverez simplement que dans des bars très très sophistiqués, d'Aberdeen, hein, comme Canimans, par exemple, qui est un bar incontournable, il faut y aller une fois dans sa vie. Voilà, il vaut à lui seul le voyage. Hein. Il concilie l'inconciliable, c'est pour vous dire. Alors le whisky, ben, il est à la fois sec, il sera rond et gras, il sera léger, persistant, fort et doux. Bien sûr, allez, on en parlera davantage une autre fois, bien sûr, hein, si on sait que toute l'Écosse se trouve dans un verre, et il faut y goûter, à travers tous les glens qui sont les plus faciles, on en parlera, nos candos, un moyen, la petite colline noire en gaélique, tellement subtil, on retrouve cet extraordinaire goût de noisette grillée, tous les glens, et donc, bien sûr, naturellement, après, tous les grands noms qui portent le nom de la commune ou de leur fondateur. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir parce que ce serait trop long de vous en parler aujourd'hui, c'est impossible. Et on parlera aussi de déguster le whisky à l'écossaise, tenez-vous bien. En attendant, attention, bien sûr, à la dégustation, consommez avec modération, essayez de prendre un très bon, mettez votre verre à givrer dans le frigo, je reviens pour une prochaine chronique parler de dégustation. À bientôt sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.